Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine ce mercredi.
Bonjour à tous.
Vous êtes en compagnie de Christine Boucard. Bonjour Christine.
Bonjour Dominique.
Et Dominique Meillet. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver ce matin. Voilà, avec ce beau soleil et cette belle journée d'été. Moi, cette semaine, je vais vous donner quelques conseils pour les parents, parce que je crois que c'est la dernière semaine avant la rentrée. Voilà, oui. Dernière semaine de vacances, donc on en profite.
Avec le soleil, bien sûr.
Ouais, on espère. Et puis, je vais vous parler du cerveau primitif qui a la même capacité d'attention qu'un poisson rouge. Aller au-delà de ses peurs, ça vaut le coup. Et comme les huiles d'olive et les vins, les miels portent l'empreinte de leur terroir. Voilà, et toi Christine, tu nous parles de quoi ?
Alors moi, je vais vous parler d'un article qui parle de la compagnie d'autres femmes. Allonge-t-elle la vie et éloigne-t-elle les maladies ? Oui, paraît-il. C'est ce que nous allons voir. Également, pourquoi cacher son âge ? Nous avons tous peut-être un rapport particulier avec notre âge. Alors, restez avec nous, vous en saurez davantage.
À tout de suite.
Médecin de fille, c'est un article paru dans Châtelaine de juillet 2015, qui est écrit par Louise Gendron. Que nous dit-elle ? Un jour par an, mon amie Monique invite chez elle toutes les femmes qu'elle aime. Ça donne une cinquantaine de personnes âgées, de 6 mois à 86 ans, des fleurs partout, chacune d'en apporter une, de la bouffe et des bouteilles de vin pour les fines et les folles. Il y a là des politiciennes, des artistes, des étudiantes, des commis de bureau, des mères de famille, des femmes d'affaires, des globe-trotteuses, des préposés aux bénéficiaires, des universitaires, et on en passe. Pour rien au monde, je ne manquerais cette joyeuse cacophonie de retrouvailles, de rencontres, des fous rires et de discussions sérieuses. Qu'est-ce que ça fait du bien à l'âme ? Ce n'est pas tout. Car, dit la science, la compagnie d'autres femmes allonge la vie et éloigne la maladie. Eh oui ! Une preuve parmi d'autres, il y a quelques années, une chercheuse, la psychologue Martha McClintosh de l'Université de Chicago, qui faisait face à une crise du logement dans son labo, a dû se résoudre à faire cohabiter plusieurs de ses rats. On parle des madame Duras, hein, de ses rats dans une même cage. Surprise, l'espérance de vie de cette nouvelle coloc a augmenté de 40%, le croirez-vous ? Pendant des décennies, continue Louis Gendreau, on a cru qu'un animal, humain ou non, en but à un stress important, un agresseur par exemple, n'avait que deux issues possibles, la fuite ou l'affrontement. Puis, un jour, on s'est aperçu d'un détail. Toutes les études sur le sujet ne portaient que sur des individus mâles. Or, vous et moi, que faisons-nous quand un problème nous empoisonne la vie ? On appelle sa meilleure amie, évidemment.
Oui, c'est vrai.
Les femmes, semble-t-il, se tournent vers leurs congénères en période de stress. Pas étonnant, dit Shelley et Taylor, qui dirige un labo de psychologie à l'Université de Californie à Los Angeles. Après tout, dit-elle, une femme ne passera pas à l'attaque avec son petit dans les bras et aura plus de mal à fuir. En fait, c'est pas elle qui le dit, c'est elle qui l'écrit dans The Tending Instinct, qu'on pourrait traduire par l'instinct altruiste. Ça a été publié chez Henry Holt et compagnie. Son meilleur moyen de défense, un conjoint, bien sûr. Mais si chérie l'a quitté pour une poulette ou qu'il est parti à la chasse ou à la guerre, restent les parentes, les voisines, les amis. Chez les primates et dans les sociétés humaines encore basées sur la chasse et la cueillette, les femelles s'organisent entre elles pour la garde des petits. Elles sillonnent souvent le territoire en groupe à la recherche de nourriture, ce qui assure leur sécurité contre les prédateurs, et se partagent même la bouffe qu'elles trouvent, limitant ainsi les conflits. Nos plus proches parentes, chimpanzés et bonobos, vont jusqu'à faire front commun si, d'aventure, un mâle de leur clan décide de jouer au matamore contre l'une d'entre elles. Bref, la prospérité et la sécurité des femmes et de leur progéniture, et donc la survie de l'espèce, dépendent largement de ces liens, en apparence informels, qu'elles tissent entre elles, à leur capacité de s'écouter également et de s'entraider. Mieux encore, toutes les études en psycho ont démontré qu'un homme mal pris recherche du réconfort auprès de sa compagne, eh oui, mais que cette dernière, elle, se tournera vers une autre femme. Nos grands-mères cousaient et tricotaient autour du feu en se racontant leurs rêves et les mauvais coups de leurs plus vieux. Du papotage de femmes, disait souvent leur mari attendri mais un peu méprisant. Leur petit-fils pense peut-être la même chose de nous, mais échanger des recettes de pesto et des photos de vacances, décortiquer nos chicanes de couple, révéler nos ambitions secrètes et notre peur de mourir, parler de mode, de carrière, de la meilleure façon de faire participer un ado aux tâches ménagères, par exemple, ce n'est pas que du papotage. Ça réchauffe le cœur, ça embellit la vie. Et surtout, ça permet d'entretenir ce réseau d'amitié féminine, informel mais solide, et essentiel à la survie d'une tribu ou d'une société. Monique, mon amie, dit Louis Gendron, merci. Et je vais enchaîner d'ailleurs avec, on parlait des ados à l'instant, des filles, des femmes qui parlaient de leurs ados souvent dans leurs conversations.
C'est un sujet tabou un peu.
Oui, ou épineux, ou délicat, bref, doux mensonge. Oui, les parents contrôlants se font davantage dire n'importe quoi par leurs ados, rapporte un chercheur de l'Université de Montréal. De 3 à 7 élèves de secondaire sur 10 admettent mentir à l'occasion au sujet de leur consommation d'alcool ou de drogue, par exemple, ou d'une sortie au cinéma en amoureux. Plus on scrute les faits et gestes de son enfant, plus on risque de se faire raconter des bobards en cas de désobéissance. En revanche, si l'on respecte son autonomie et qu'on lui explique le pourquoi des règles, l'adolescent ment moins, même quand il désobéit.
Parents sur le tard. Tu vois, je continue dans la même lignée. On est vraiment
on
sur
est
les
sacro.
Parents. Ouais. Cette semaine, on est très parents. Alors, c'est un texte par Sophie Durocher dans Le Mois et compagnie de septembre 2015. La scène se passe lors de l'anniversaire de mon fils. On avait invité des amis à la maison. Un des copains de fiston aperçoit mon mari, dont les cheveux poivre et sel sont beaucoup plus sel que poivre. « Toi, tu es le papa de Nicolas ou son grand-papa ?» a demandé le petit effronté avec un air dubitatif. Et oui, c'est ce qui arrive quand on a des enfants tard. J'ai eu mon fils à 42 ans, mon mari en avait 46, et on a bien sûr fait le calcul. Quand fiston aura 18 ans, j'en aurai 60 et mon mari 64. On aura l'âge de la retraite quand lui atteindra sa majorité. Il aura le droit de boire de l'alcool à l'âge où nous aurons le droit de manger mou. Non, j'exagère, mais il commencera à travailler à l'âge où nous serons admissibles à la retraite. Il commencera à s'activer au moment où on commencera à se reposer. On ne se le cachera pas, être maman à 42 ans, ça n'exige pas du tout le même effort physique qu'avoir un bébé à 24 ans. Quand on passe des nuits blanches à 24 ans, on est capable de le prendre parce que quelques mois avant, on faisait la fête dans les bars, jamais couché avant 4 heures du mat. Mais à 42 ans, chaque minute de sommeil perdu se fait sentir dans chacun de nos vieux os. Il y a beaucoup de désavantages à être maman sur le tard, mais il y a un avantage qui fait tout oublier avant 42 ans. J'ai eu le temps de voyager, je me suis promenée à dos de chameau, devant les pyramides d'Égypte, j'ai fait de la mobylette en Grèce et j'ai mangé du halva à l'eau de rose au Liban et du suribi au Paraguay. J'ai eu le temps de travailler, de me bâtir une carrière solide. J'ai mangé dans des restos, fait la fête, reçu des amis. Alors quand fiston est arrivé dans ma vie, je n'ai ressenti aucune frustration. Je n'avais pas l'impression de faire des sacrifices en arrêtant de travailler pendant un an et demi, ni de manquer quelque chose en restant à la maison à allaiter. Je n'avais pas l'impression de perdre mon temps en faisant la file pendant 2 heures pour un manège à Disney, car les voyages, les jobs et les sorties que je voulais faire, j'avais eu le temps de le faire. Il n'y a pas d'âge idéal pour faire un enfant. Ma belle-sœur a eu sa fille à 18 ans et sa fille a accouché à 18 ans. Elle est donc devenue grand-mère à 36 ans, un âge où je n'étais même pas maman. Mais une chose est sûre, je vais aller chez le coiffeur cette semaine. Je n'ai pas envie que les amis de mon fils me demandent si je suis sa grand-mère. Maman tout craché. C'est un texte par Julie Roy dans le coup de pouce de septembre 2015. Quelques semaines après la rentrée, on est toujours invité à visiter la classe de fiston et à rencontrer son nouveau prof. Chaque année, j'anticipe avec appréhension le moment où je soulèverai le dessus de son pupitre pour découvrir que mon fils arrive à créer un fouillis monstre en quelques semaines à peine. La dernière fois, j'ai vu des duotangues enchevêtrés, la couverture pliée en deux, des rognures de crayons dispersées à tout vent, quelques mouchoirs usés, un demi-bâton de fromage encore dans son emballage, etc. Surprise vraiment ! Si l'enseignante de mon fils avait vu comment je vis, elle aurait trouvé que la pomme n'était pas tombée bien loin de l'arbre. Je possède deux paires de lunettes parce que je les égare constamment. Si je cherche un bouquin, mes enfants me suggèrent toujours de regarder derrière le divan. Et mon dossier de travail hyper urgent, probablement sous une pile de magazines. Pourquoi alors est-ce que ça m'exaspère autant que mes enfants soient bordéliques ? Il y a certains traits de notre personnalité qu'on aime moins et qui deviennent plutôt difficiles à nier quand ils se retrouvent chez notre enfant, explique la docteure Nadia Gagné, psychologue, auteure et conférencière. Comme parent, c'est le genre de situation qui peut être confrontante, mais aussi une belle occasion de réfléchir à l'importance qu'on donne à ce trait de caractère. Petite, mon pupitre ressemblait sans doute à celui de Fiston, et je me souviens d'avoir déjà oublié de vieilles collations au fond de mon sac à dos. Est-ce que cela m'a empêchée de devenir une adulte épanouie ? Pas trop. Si nous, on a vécu de cette façon-là sans trop de détresse, il faut se demander s'il est bien nécessaire de demander à notre enfant de changer son comportement. Être distrait et perdre sa boîte à lunch ou être soupe au lait le matin serait donc un travers avec lequel on devrait apprendre à vivre plutôt que qu'on devrait tenter de corriger. Sans nécessairement intervenir, on peut quand même demander à son enfant s'il vit des inconvénients causés par ce trait de caractère et s'il a besoin d'un coup de main. Et si on profitait pour essayer de s'améliorer soi-même ? C'est une occasion de montrer à son enfant qu'on est un modèle d'amélioration et d'acceptation de soi, ajoute la psychologue. Accepter nos petits défauts, les nôtres comme ceux de nos enfants, c'est une belle leçon de vie. Heureusement, nos enfants n'héritent pas uniquement de nos pires côtés, que ce soit la fibre artistique d'Alexandra ou le côté bout en train de Marianne. Je suis fière de voir que mes deux filles possèdent quelques-unes de mes qualités, raconte Simon, 42 ans. Coup de chance génétique ? Pas totalement. Mes enfants me ressemblent parce que je leur ai enseigné ce que mes parents m'ont transmis. Pour ce papa, la meilleure façon de transmettre ses bons comportements, c'est de ne pas lésiner sur les encouragements, que ce soit pour un lit bien fait ou pour un travail scolaire. Je me souviens d'un travail d'équipe que ma fille Marianne a complètement recommencé toute seule parce qu'elle n'en était pas fière. C'est dans ces moments-là qu'on constate avoir bien fait notre boulot de parent, explique-t-il. Cette année, j'ajouterai à ma tournée scolaire la classe de ma petite Joséphine. Je me demande bien quel morceau de moi elle emportera dans son sac à dos bleu électrique. Dans les parties de famille, ma mère raconte encore avec beaucoup de fierté que je savais lire très tôt, mais qu'il n'était impossible de m'arrêter de parler en classe. Les paris sont ouverts.
C'est à 30 ans que les femmes seront belles. Avant, elles sont jolies. Après, ça dépend d'elles. C'est à 30 ans que les filles seront belles. Entre puces à les femmes et entre chiens et loups. Avec un brin d'automne au coin des yeux, elles en savent beaucoup. C'est à 30 ans que les femmes seront belles, que les belles seront femmes, que les femmes sont vraies. Et celles qui disent autrement n'ont pas encore 30 ans, ou bien ne les ont plus depuis déjà longtemps. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, on s'en y prend. Après, on s'y attache. Mais à 30 ans, on s'amourache avec un peu d'avance. avec un peu d'après. La vie fait bien les choses de temps en temps, que le temps vous va bien. C'est à 30 ans que les femmes sont belles. Avant, elles sont jolies. Avant, on s'en éprend. Après, ça dépend d'elles. Ou bien de nous.
Les femmes de 30 ans de Jean-Pierre Ferland, c'est donc la chanson de ce cher Jean-Pierre Ferland. Mais dit-il, les femmes sont belles à 30 ans, mais moi je dirais pas seulement, n'est-ce pas, les messieurs, les hommes?
Alors, les femmes, elles sont toujours belles.
Voilà. Tout le monde est beau, quel que soit l'âge qu'il a en dedans et en dehors. Donc, pourquoi se cacher son âge, pardon? C'est un article de Jacqueline Simoneau paru dans Le Bel Âge de juin 2015. Autrefois, on disait qu'il ne fallait jamais demander son âge à une dame. C'était impoli. De nos jours, cette pudeur n'existe plus. On risque tous de se faire poser la question, et ce, plus d'une fois. À 20, 30 et même 40 ans, c'est facile d'y répondre. Après la cinquantaine, et plus encore après la soixantaine, notre rapport à l'âge change. Souvent, on commence à éprouver un certain malaise à divulguer l'année de notre naissance. Et si plusieurs la dévoilent du bout des lèvres, d'autres choisissent carrément de la trafiquer ou de la taire. Ainsi, peu de gens connaissent l'âge véritable de Micheline. « Je ne révèle jamais mon âge, dit-elle. Lorsque quelqu'un aborde la question, je fais comme si je n'avais pas entendu et je fais dévier la conversation sur un autre sujet. » Orphelin et enfant unique, Paul berne tout le monde. « Au début de la cinquantaine, j'ai développé une peur de vieillir et de perdre mon emploi, avoue-t-il. L'entreprise venait d'engager plusieurs jeunes et je craignais de ne plus être dans le coup. Je ne voulais surtout pas être étiqueté de vieux. » Alors j'ai commencé à mentir sur mon âge. Je sais bien que je vieillis quand même, mais c'est plus fort que moi. Constat semblable du côté d'Anne. Je vais jusqu'à refuser d'être fêtée pour ne pas avoir à répondre à l'inévitable question sur mon âge, précise-t-elle. Alors ce déni du passage au temps, du passage du temps est rarement anodin. Petite coquetterie, assurément, mais il y a plus. Ce pieux mensonge traduit souvent un profond malaise, conscient ou non. De nos jours, on note un grand inconfort par rapport au vieillissement, constate la psychologue Stéphanie Léonard. Déjà, à partir de la quarantaine, les femmes, mais aussi de plus en plus d'hommes, deviennent particulièrement soucieuses de leur apparence. Et plus elles vieillissent, plus elles ressentent la pression du corps parfait, de la jeunesse associée à la réussite professionnelle et sociale. L'estime de soi est encore largement basée sur ces critères. Comme si le fait de vieillir était quelque chose de péjoratif, d'anormal. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi certaines personnes refusent de vieillir et choisissent de ne pas dévoiler leur âge. Mais le désir de rester jeune physiquement n'explique pas tout. Pour certains, vieillir est aussi associé à la crainte de perdre leur pouvoir de séduction, de ne plus être aimé, d'être jugé en fonction de leur âge, plutôt que de leurs compétences, de voir le regard des autres changer ou encore de perdre des amitiés plus jeunes. En réalité, ils projettent leur crainte sur les autres, croyant à tort ou à raison que ces derniers pensent comme eux. Selon le psychologue Camille Ozakia, si certaines personnes mentent pour influencer la perception des autres à leur sujet, elles le font aussi parfois pour modifier inconsciemment la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Comme si le fait de ne pas dévoiler leur âge constituait une forme de protection contre le vieillissement et ses aspects plus sombres comme la maladie, la perte d'autonomie, la vulnérabilité et le début de la fin. Il arrive qu'une telle attitude soit profondément ancrée. Louise a longtemps menti sur son âge, par exemple. « Je me refusais d'entrer dans la soixantaine, dit-elle. Je suis donc restée une éternelle quinquagénaire jusqu'à ce que j'en découvre la raison lors d'une thérapie. Mes parents sont tous les deux décédés au début de la soixantaine. Inconsciemment, je refusais de franchir ce cap, de peur de mourir, à mon tour, à cet âge. » L'avènement des médias sociaux, il est facile de trafiquer son âge contribue aussi au phénomène. Comment rétablir la vérité, poursuit Jacqueline Simoneau? On le sait fort bien. Même en décidant de garder pour soi le nombre de ses années, les chiffres du compteur continuent à tourner, qu'on le veuille ou non. Notre âge fait partie de notre identité, rappelle Stéphanie Léonard. En le niant ou en le truquant, c'est comme si on effaçait une partie de soi. Puis, ce n'est pas si simple de mentir sur son âge. Il faut faire preuve d'une vigilance de tous les instants pour entretenir le mystère. Pour entretenir le mystère, oui. Généralement, l'entourage sait que la personne ment sur son âge, ce qui peut donner lieu à des moqueries ou même à une perte de confiance envers elle. Dissimuler son nombre d'années, ce n'est pas avantageux non plus. Trop souvent, les spéculations se font à notre détriment. Au lieu de taire votre âge ou de faire croire que vous avez 50 ans, au lieu de vos 60 ans, bien compter par exemple, pourquoi ne pas montrer qu'à 60 ans, on peut être beau, plein de vie et de projets? Aussi étrange que cela puisse paraître, une fois que j'ai décidé de faire le saut et d'avouer mon âge réel, ça m'a fait un bien fou, avoue Louise. C'est très libérateur de l'assumer. Alors voici 5 trucs, nous dit Jacqueline Simoneau, 5 trucs pour arriver à dire et à mieux accepter votre âge. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vieillir est-il pour moi une réalité difficile à affronter? Y répondre est un premier pas vers l'acceptation. Autre chose, n'évitez pas le sujet. Lisez des livres, des articles au sujet de l'âge et discutez-en avec les gens autour de vous afin de connaître leurs opinions. Nommez votre malaise, il prendra automatiquement moins de place. En disant simplement que vous avez un blocage à ce propos, déjà vous enlevez une énorme pression et vous ouvrez la porte à la discussion, souligne Camille Ozakia, le psychologue. En fait, plus vous en parlerez, plus vous apprivoiserez le sujet, plus vous serez en mesure de comprendre votre malaise et plus vous vous approcherez du moment où vous serez capable de dire ce que vous tentez de cacher. Autre chose, cultivez l'estime de vous-même. Rappelez-vous que la vraie beauté est affaire de charme, de charisme, de présence, d'énergie, d'aisance, de bien-être, de façon de penser et de percevoir les choses, bien plus que de perfection plastique fragile et éphémère. Pour se libérer des diktats et prendre votre place, cultivez votre propre estime en considérant notamment vos réalisations, vos qualités et vos forces. Certaines lectures et parfois même une thérapie pourront vous aider à faire la paix avec votre corps. Découvrez les bons côtés de l'âge. En vieillissant, on se connaît mieux, on a moins de choses à prouver, on dispose de plus de temps, on profite plus des plaisirs de la vie, on est plus expérimenté et plus sûr de soi, on est plus à l'écoute des autres, etc. Acceptez vos limites et profitez le plus possible de ce que la vie vous offre. Puis, mettez de l'humour dans votre existence. Il aide à dédramatiser toutes les situations, même celles qui sont liées à l'âge. J'ajouterais que rire fait un bien fou à tout le monde. Affichez enfin fièrement vos couleurs. On éprouve un réel sentiment d'authenticité à dire « j'ai tel âge, voilà où j'en suis », fait remarquer Stéphanie Léonard. En fait, ce n'est pas l'âge qui repousse les gens, mais notre personnalité ou notre façon d'aborder la vie. On est jugé en fonction de ce que l'on est, plutôt qu'en fonction de notre âge. Et je conclurai l'article en vous invitant à nous suivre tout à l'heure de nouveau, puisque je vais vous parler de témoignages de comédiens, notamment qui nous parlent de leur âge. Alors, à tout à l'heure. Merci.
Zone de lecture. Alors, c'est pour la rentrée un petit peu, hein. Pour bien remplir sa fonction, non seulement l'espace lecture est pensé de façon ergonomique, mais il prend place près de la lumière naturelle, dans la chambre ou le salon. On fait comment ? À l'abri du bruit et un peu isolé, le coin bibliothèque est aéré, optimisé, fonctionnel. L'espace doit aussi avoir une touche personnelle pour donner le goût de s'y reposer, mais sans surcharge, conseille la designer d'intérieur Geneviève Cariepi. Par exemple, on opte pour des portes vitrées si on aime le rangement ouvert, mais pas l'accumulation de poussière. On éclaire avec des encastrés au plafond, puis avec une lampe munie d'un gradateur de lumière et d'un abat-jour dont on peut ajuster l'angle. On cherche une lumière d'un blanc naturel ou chaud, comme l'effet qu'on obtiendrait avec une ampoule incandescente, dit la spécialiste. Et enfin, qu'on choisisse un fauteuil et son repose-pied ou une méridienne pour s'allonger, le siège doit être doté d'un dossier assez haut pour soutenir le dos. On vérifie les dimensions pour qu'on puisse y circuler sans être gêné, rapporte Geneviève Carpetti.
On va parler d'une question de forme. La forme, alors on parlait de l'âge, etc. Après tout, pied alerte, cerveau musclé, c'est une petite brève que je suis allée chercher dans Châtelaine de juillet 2015. Tous les efforts déployés au gym pendant la quarantaine ne servent pas qu'à garder la forme. Et oui, ils retardent aussi le vieillissement du cerveau une fois dans la soixantaine, qu'on se le dise. Dans les années 1970, les participants à une grande étude sur les maladies du cœur, ils avaient en moyenne d'âge de 41 ans, ont fait un test d'effort sur tapis roulant. Une vingtaine d'années plus tard, des examens de résonance magnétique et des tests cognitifs ont révélé que ceux qui étaient le moins en forme à l'époque avaient moins de tissu cérébral, un signe de dégénérescence de ce précieux organe. La source, c'est American Heart Association.
Alors, un petit régal musical, mais qui va vous surprendre, j'espère. Du 27 au 29 août, le plat national des Québécois est au cœur d'une programmation musicale aussi délectable qu'une montagne de fromage en grains. Cette année, le Festival de la Poutine de Drummondville a invité la plus que connue Cœur de Pirate, de même que la nouvelle sensation électropop, le duo féminin Milk and Bone. Également au menu musical, Galaxy, Vincent Vallière, Dumas, DJ Champion et plusieurs autres. Et le concours du meilleur poutinier sera lancé. Aurez-vous la chance de goûter à la recette gagnante ?
Alors on vous attend après la pause, on va parler de nouveau du poids du cerveau, de l'âge, de la question de l'âge et des témoignages et de saveurs. À tout à l'heure.
Le cerveau du poisson rouge, c'est un texte par Louise Gendron dans le Châtelaine de septembre 2015. Tous les jours, l'humanité met en ligne 500 millions de gazouillis sur Twitter, 70 millions de photos sur Instagram et 432 000 heures de vidéos sur YouTube. Je répète, tous les jours. Me semblait bien aussi que je commençais à avoir du mal à fournir. Vous aussi d'ailleurs. Une étude menée au Canada pour Google a déterminé récemment que l'Homo sapiens 2.0 a désormais une capacité d'attention de 8 secondes, soit 4 de moins qu'en 2000, et une de moins qu'un poisson rouge dans son bocal. Cela dit, je me méfie des affirmations sur les facultés cognitives des animaux. Le web est plein de vidéos de bestioles occupées à des choses qu'on croyait impossibles. Des éléphants qui s'intéressent à la musique, des corneilles fabriquant un outil, etc. Mais je m'égare. C'est d'ailleurs ça le problème, on s'égare. Ce serait la faute aux médias sociaux et à tous ces bidules intelligents qui sollicitent notre attention partout et toujours, à l'information qui nous inonde de partout, aux interminables listes de choses à faire qui constituent l'essentiel de notre vie. Notre pauvre cervelle, pas du tout conçue pour gérer ces zillions d'informations, souvent plus insignifiantes les unes que les autres, perd l'habitude et, disent certains spécialistes, jusqu'à la capacité de se concentrer. Au bout de 8 secondes environ, on abandonne la tâche en cours pour fouiller dans son sac, texter son chéri, partir dans la lune ou aller voir ce qui s'est passé sur Facebook depuis sa dernière visite il y a une minute et demie. C'est pour ça que les réalisateurs de cinéma découpent leurs histoires en plans de quelques secondes et que, probablement, vous m'avez déjà lâché une fois ou deux depuis le début de votre lecture. Le psychiatre américain Edward Hallowell a baptisé « trait de déficit d'attention » ce dysfonctionnement neuronal qui, dit-il, se répand à la vitesse grand V dans les sociétés technologiquement avancées. Contrairement aux troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDA, qui est d'origine génétique, le trait de déficit d'attention est entièrement dû au bain de stimulus et d'exigences dans lequel nous passons notre vie. Submergé par ce déluge, notre matière grise s'affole comme une mouche enfermée la nuit dans un magasin de luminaires et finit par surchauffer. C'est la panique à bord. Notre cerveau rationnel se fait alors supplanter par le cerveau primitif, celui qui gère les fonctions vitales, comme la respiration et le rythme cardiaque, et qui prend les commandes dès qu'il perçoit un danger mortel. Genre la tarentule dans la tente ou la 60e alerte de notre iPhone. Dans ces conditions, produire une idée brillante ou simplement suivre un raisonnement devient vraiment difficile. Ça se guérit, docteur ? Il semble que oui. Première étape, dompter l'ennemi. Se donner comme règle de ne consulter sa boîte courriel que 3 fois par jour, par exemple, ou d'éteindre son téléphone pendant les périodes de travail. Deuxième étape, muscler sa capacité de concentration comme on fait des abdos, par intervalles et progressivement, mais sans lâcher. Joe Robinson, spécialiste américain de l'efficacité au travail, propose par exemple de programmer une minuterie sur son téléphone ou son ordi et de s'imposer 10 minutes de concentration suivies de 2 minutes de pause. Puis, d'allonger graduellement la période d'attention jusqu'à pouvoir lire un article complet, par exemple. J'ai peur, et alors ? C'est un texte par Christelle Crépeau, toujours dans le Châtelaine de septembre 2015. Une connaissance me racontait récemment comment elle avait réussi à vaincre sa claustrophobie pour aller faire de la plongée dans une caverne sous-marine du Mexique. Permettez-moi d'insister sur cette équation. Claustrophobie plus caverne sous-marine. L'échange qui a suivi ressemblait à quelque chose comme « moi ». Impressionnant, sauf qu'il est hors de question que je fasse ça un jour. Elle, mais quelle satisfaction d'avoir combattu ma peur et vu ce lieu mythique. Je m'y suis prise à 3 fois avant de pouvoir descendre dans la caverne. Je pensais ne jamais y arriver. Moi, est-ce que l'angoisse et le malaise que tu as vécu pendant tout ce temps valaient vraiment la splendeur du lieu? Elle, songeuse, dans ce cas, oui, mais je ne le referais pas. Aller au-delà de ses peurs profondes a un prix, et je l'annonce d'emblée, je n'ai pas envie de le payer. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le discours ambiant selon lequel on devrait toujours chercher à fracasser ses limites m'irrite. Il semble y avoir un consensus social sur l'idée que ce soit la chose à faire. Or, la liste « exigences de la vie » contient déjà assez d'éléments pour relier Montréal à Cujuac. Après manger 10 portions de fruits et légumes par jour, s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, voir le dernier Dolan et acheter des RER, il faudrait ajouter combattre son vertige en se sacrant en bas d'un avion avec un petit parachute. Merci, mais non merci. Je comprends très bien la nécessité de surmonter des phobies qui nous handicapent au quotidien. S'empêcher de prendre le métro, être incapable de dormir seul ou angoissé dans un ascenseur, c'est salement contraignant. Mais pour le reste, quel est le problème ? Je n'aurai pas assez de vie pour réaliser tous les projets que j'ai en tête. Alors pourquoi irais-je choisir celui qui me terrassera des semaines avant et des heures durant ? Pour la satisfaction que je ressentirai après, me direz-vous ? J'ai peine à croire que ça me comblera davantage que de relever un défi où je pars avec une longueur d'avance en termes d'aptitude et d'intérêt. Car oui, on peut se dépasser sans aller à l'encontre de ce qu'on est. Déterminer des objectifs qui nous donneront des papillons dans l'estomac, des vertiges et même quelques nuits blanches, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'étendre le rayon de nos capacités. Mais avant de se jeter dans le vide, mieux vaut écouter ses envies profondes et bien établir le ratio prix à payer, pérennité de cet effort. Sera-t-il vraiment utile dans ma vie ? Une réflexion qui doit faire la sourde oreille aux pressions extérieures. Vous avez une peur maladive de l'eau et vos amis vous pressent d'embarquer dans une excursion de rafting en vous disant combien vous serez fiers de vous après. Restez donc au chalet pour lire un bon livre ou pour établir la liste des choses que vous aimerez vraiment accomplir au cours de la prochaine année.
Merci Dominique pour cet article bien intéressant parce qu'effectivement, aller au-delà de sa peur, pourquoi finalement Je pense qu'on doit faire les choses aussi comme on les sent en soi. Et moi, pour ma part, là, qui ai dépassé la... qui suis dans la cinquantaine, là, je dois dire que je n'ai pas peur, effectivement, d'affirmer mon âge non plus. Donc, c'est le sujet de mon prochain article de nouveau. Et de dire non, savoir dire non de temps en temps, même si toute
tu
la gang nous dit qu'on a envie.
Tu ne feras pas de plongée dans les cavernes.
Plongée sous-marine, non, et encore moins dans les cavernes. Je suis un peu claustrophobe de ce côté-là. J'affirme mon âge, donc, mon âge, Julie Stanton qui nous en parle dans Le Bel Âge de juin 2015. Il s'agit là de quelques témoignages, j'en ai pris 6, de comédiens et d'autres personnes non comédiennes, d'hommes et de femmes. Alors voilà, on va commencer par Jeannine Souto, qui ne connaît pas Jeannine Souto, qui a 94 ans. « Mis à part mes 20 ans, dit-elle, j'ai aimé tous mes âges et je n'ai jamais été tentée de les camoufler. À 75 ans, je grimpais au mur. » À 80, j'ai fait un gros parti d'anniversaire au Lion d'Or. Mes 94 ans sont plus lourds à porter, surtout depuis la disparition de ma fille Catherine. N'empêche, en 2012, j'étais de la tournée de Belle-Sœur qui nous a conduits jusqu'à Paris, après des représentations au Québec 3 ans d'affilée. J'ai encore des projets. J'ai mes camarades de théâtre, ma famille, et tout le monde connaît mon âge vénérable. Et j'enchaîne avec ce témoignage de Denis Bernard, un comédien qui a 57 ans. Quand j'ai passé le cap de la cinquantaine, j'ai paniqué un peu, d'abord face à moi-même, puis face aux autres. Un de mes amis m'a dit alors combien j'étais privilégiée de bien vieillir. Il avait raison. Aujourd'hui, je ne voudrais plus revenir en arrière pour rien au monde, et je n'ai aucun problème à dire mon âge. Ce qui ne m'a pas empêchée de me demander si j'avais vraiment le profil de l'emploi pour séduire la belle Hélène Florent dans la série télévisée La Galère. Les personnages que j'interprète ont de l'épaisseur et de la subtilité. Un autre a tout de l'âge. J'essaie de mettre les chances de mon côté pour l'exercice, par l'exercice physique et une bonne alimentation. J'aime la vie. Et je poursuis avec ce témoignage de Gilles Renaud, 70 ans, comédien. Je connais des gens qui, dit-il, dans la jeune trentaine, refusent déjà de dévoiler leur âge. J'ai toujours assumé le mien. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer à le cacher. D'autant qu'on me donne du « monsieur » et qu'on m'apporte une chaise sur les plateaux. Bien sûr, à 70 ans, j'ai moins de propositions de rôle qu'auparavant, mais, comme j'ai plutôt l'air d'être dans la mi-soixantaine, on m'offre encore de beaux personnages. Je viens de terminer le tournage du dernier film de Louis Bélanger, « Les mauvaises herbes ». Le thermomètre affichait moins 38 degrés Celsius. Alors là, je ne me suis pas gênée pour appeler mon âge aux camarades en leur demandant de ménager un peu ma résistance. Je suis quand même assez fière de mes 70 ans. Il y a une certaine sagesse rattachée à ça, une façon de voir l'existence. Il y a moins de stress, moins d'attente, donc moins de déception. Si j'avais eu cette philosophie à 20 ans, ça aurait changé ma vie. Et Louise Forestier, qui a 71 ans, nous dit « Maintenant, je ne cache pas mes 71 ans. J'ai menti pendant quelques années. Dans la quarantaine, alors que je me rajeunissais d'un an. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je fêterais mes 50 ans à 51 ans. Ça m'a fait de la peine. 50 ans est un âge symbolique. On ne joue pas avec les symboles. C'est comme un boomerang, une claque derrière la tête. Ça vient quand on ne s'y attend pas. Alors j'ai remis mon âge à l'heure avancée de l'Est. Se rajeunir, c'est comme avouer un échec sur l'accomplissement de sa vie, comme si on n'avait pas assez de renommée aux yeux des autres. Quand j'ai compris qu'au nombre des années s'accrochaient des expériences et des histoires que je ne pourrais pas partager sans me tromper dans les dates, ou que je me retrouverais en train de mentir pour camoufler un mensonge, ou encore que je me forcerais au silence de peur de me trahir, j'ai arrêté ce petit jeu enfantin et j'ai vieilli d'un an en riant fort. Alain Zouvi, 56 ans, qui nous dit « Le fait de vieillir ne me traumatise pas encore. » Ni dans la vie, ni dans le métier. Quand je dis mon âge à des connaissances ou encore aux amis de mes enfants, je ne vois pas de changement chez mes interlocuteurs. Par contre, dans un groupe où je suis parmi les plus âgés, je sens que je ne fais plus tout à fait partie de la même gang. Ça vient d'eux, pas de moi. Le regard a changé, j'avoue. J'avoue aussi que sur un plateau de tournage, on me dit de plus en plus « monsieur ». Pas nécessairement à cause du chiffre, mais à cause de l'aspect physique. J'ai beaucoup blanchi depuis quelques années. Les cheveux, les favoris, la barbe, ça ne ment pas. Peut-être qu'on m'offre bientôt des rôles de grand-père. qu'on m'offrira bientôt des rôles de grand-père. Je n'aurai aucune réticence. Une chose que je n'aimerais pas, cependant, c'est que mon nom apparaisse dans un article de journal intitulé « Que sont-ils devenus ?» Et enfin, un dernier témoignage, cette fois-ci d'Alain Crevier, qui a 58 ans. Mes meilleurs amis sont dans la quarantaine et tout le monde connaît mon âge. Aucun problème. Par contre, dans mon milieu de travail, les collègues dans la trentaine ne savent pas s'ils doivent me tutoyer. Il s'est créé une distance qui n'existait pas il y a 10 ans. Tout à coup, ils réalisent que je suis là depuis 34 ans. Pour eux, je suis devenue une pièce de musée. J'ai été témoin de comportements odieux dans la foulée de la crise économique. Ainsi, j'ai entendu un jeune journaliste dire à quelqu'un de 60 ans « Pourquoi tu ne pars pas? Tu me pompes l'air ?» Deux ou trois personnes de ton âge dans la profession et nous, on n'a plus de job au Québec. Je reviens pas, dit le journaliste. Ça ne m'est pas encore arrivé. Je ne me considère plus comme jeune et je suis très à l'aise avec ça. Par contre, parfois je me dis que, si on me montrait la porte, mon âge serait sûrement un handicap pour postuler ailleurs ou me recycler, par exemple, dans la technologie.
Si vous le rencontrez, bizarrement paré, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a, par un soir d'hiver, contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donnés. Le teint blafard, malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les seins si lourds de trop d'amour, ne porte pas le nom d'appât, le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Eh bien, c'était cette magnifique chanson de Serge Reggiani, Sarah. Moi, je vais vous donner le goût du miel. Ça va très bien avec la chanson, je trouve. Quelque chose de sucré et de chaud. C'est dans le Châtelaine de septembre 2015 et c'est par Caroline Fortin. Félix Lapierre est devenu apiculteur un peu par hasard en 1997. J'ai trouvé des vieilles ruches dans le hangar familial, raconte-t-il. Ma grand-mère ne jetait rien et son frère pratiquait l'apiculture dans les années 60. Il ne me manquait plus que les abeilles. Il en possède aujourd'hui plus de 6 millions, répartis dans 160 ruches. Avec Judith, sa conjointe, il gère à Brébeuf, dans les Laurentides, la ferme apicole Le Petit Rucher du Nord, qui comprend un kiosque ouvert au public. La coqueluche de leur étal, le miel de printemps, qui est aussi le plus laborieux à concocter. Et il n'y en a pas chaque année s'il pleut pendant la saison des pissenlits, qui est la principale source avec les arbres à fleurs, je perds ma récolte. Chacune des ruches m'en procure seulement de 500 grammes à 1 kilo. Ce serait plus simple de le laisser là et de l'extraire plus tard, mais il est tellement bon avec ses arômes d'agrumes. Le goût de cette substance sucrée vient des fleurs visitées par les vaillantes butineuses qui s'activent dans un rayon de 3 km autour de leur ruche, idéalement sur des terrains sauvages, offrant une grande diversité florale. Au Québec, les apiculteurs récoltent généralement à 3 moments de l'année et chaque production a ses particularités. Le miel de printemps est fait du nectar des pissenlits et des fleurs de cerisier, de merisier et de sureau. D'un jaune intense, il a une saveur florale, fruitée et légèrement corsée. Le miel d'été est élaboré à partir du trèfle, mais également du méliot, de la luzerne, de la ronce. Il va du blanc au doré et son goût est doux, chaud, légèrement floral. Le miel d'automne est souvent dominé par la verge d'or que viennent compléter l'aster, le patois, les trèfles rouges et blancs. Il est doré et son goût est légèrement piquant, avec des notes fruitées. Il y a 15 ou 20 ans, le Canada exportait du miel de trèfle en quantité, relate Anne-Virginie Schmidt, copropriétaire des miels d'Anisset et sommitée dans son domaine. Mais la culture du canola et du maïs a remplacé celle du trèfle. Le premier est souvent transgénique, cultivé à partir de semences enrobées de pesticides, et son miel n'est pas intéressant du point de vue aromatique. Quant au maïs, il ne fournit pas de nourriture à l'abeille. Au Québec, la monoculture est de plus en plus répandue et les fleurs sauvages de moins en moins présentes. Or, ce qui donne au produit sa complexité, c'est qu'il soit issu de plusieurs fleurs et non d'une seule. On comprend pourquoi les connaisseurs apprécient davantage les miels provenant des secteurs plus sauvages et peu agricoles, comme les Hautes-Laurentines, région d'élection des miels d'Anisset. Pour savourer l'authenticité du miel, un critère s'impose. Oubliez ceux qui sont pasteurisés. Ce procédé sert à prévenir la croissance de la bactérie responsable du botulisme, une intoxication rare pouvant affecter les femmes enceintes et les enfants de moins de 2 ans. Et il tue au passage toutes les huiles essentielles, les enzymes et les protéines. En chauffant le miel, on empêche sa cristallisation pour qu'il reste liquide. On homogénéise aussi la couleur du produit. Des entrepreneurs qui importent la matière d'Argentine, du Brésil, d'Australie, parce que la main-d'œuvre y est moins chère, mélangent les miels foncés aux plus pâles pour obtenir toujours le même doré. Une pratique qui explique sans doute pourquoi nombre de consommateurs considèrent cette teinte jaune comme la norme et fuient les produits plus foncés dont ils estiment la saveur trop prononcée. Ils disent souvent que le nôtre ne goûte pas le miel, poursuit Anne-Virginie. Avec le mouvement foodie, se réjouit-elle, bien des gens veulent redécouvrir la saveur du miel et sont moins intéressés par ceux qui sont mélangés avec des produits d'ailleurs. Une tendance que confirme Christine Jean, directrice générale de la Fédération des apiculteurs du Québec. Depuis quelques années, on a commencé à recevoir des appels de consommateurs à la recherche d'un produit venant de certaines fleurs en particulier. En France, on vend depuis longtemps du miel d'acacia ou de lavande, etc. Certains apiculteurs d'ici font désormais analyser leur récolte afin de déterminer quelle en est la fleur dominante et de pouvoir ainsi l'inscrire sur l'étiquette. Artisanal, la simple mention « produit du Québec » ou du Canada ne signifie pas nécessairement qu'on a affaire à un miel produit par un artisan apiculteur. L'étiquette sur le pot doit spécifier le nom de l'entreprise apicole ainsi que le nom d'un village, une adresse. On en retrouve dans la section des aliments naturels ou biologiques des supermarchés, ou encore dans les épiceries fines. Mais rien ne vaut une visite chez un producteur ou dans une miellerie. Pour vraiment apprécier toutes les subtilités des flaveurs, on goûte à 4 ou 5 miels à la cuillère, du plus pâle au plus foncé, en prenant une gorgée d'eau entre chacun. Et puis, le miel se marie à merveille aux produits laitiers. On peut s'offrir une dégustation en associant deux fromages,
un doux et un plus goûteux, respectivement à un miel clair et à un foncé. On accompagne le tout de noix grillées et de fruits confits ou d'une compotée de fruits. Chez les Lapierre, on en met bien sûr sur les rôtis du matin, mais également dans les réductions, les vinaigrettes, le yaourt, les lacs. Comment faire manger du poisson aux enfants ? On le badigeonne d'un mélange de miel, de moutarde et d'ail. Conseille en souriant Félix, papa de trois petits connaisseurs qui grandissent parmi les ruches. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. C'est 500 000 le nombre de fleurs qu'une abeille butine pour produire 1 kg de miel. 309, c'est le nombre d'apiculteurs commerciaux au Québec. Et 49 635, c'est le nombre de colonies au Québec. Une colonie est composée d'une reine, de faux bourdons et d'abeilles ouvrières pour une population variant entre 32 millions et 83 000 insectes. Et on fait aussi du miel urbain. Il y a de plus en plus de ruches dans les villes. Montréal en comptait au-delà de 500, la plupart sur les toits, dont ceux de la TOHU, de l'Université de Montréal et de l'hôtel Reine-Élisabeth. Sans parler des citadins qui se lancent dans cette aventure. La moitié de nos clients sont des parents qui veulent initier leurs enfants à l'apiculture, dit Alexandre McLean, cofondateur d'Alvéole. L'entreprise livre des ruches à des organisations et à des particuliers et, à la fin de la saison, récolte le miel obtenu et leur en remet des pots. Une grande partie de notre travail consiste à expliquer aux gens que les abeilles ne sont pas dangereuses. Elles piquent rarement, contrairement aux guêpes. Alvéole a installé 300 ruches dans une douzaine de quartiers montréalais et commercialise des miels provenant de quatre secteurs, Plateau-Mont-Royal, Westmount, Villeray et Sud-Ouest. Des produits très distincts. Sur le plateau, par exemple, il y a beaucoup de tilleuls, ce qui donne un goût un peu mentholé, un produit très clair, précise Alexandre. Par contre, à Saint-Henri, dans le Sud-Ouest, les fleurs indigènes comme la verge d'or abondent et le miel est plus sucré et plus foncé. La diversité florale est hallucinante en raison, entre autres, des plants et les gens qui font pousser chez eux.
Alors, pour ces notes sucrées, merci Dominique. Concernant les notes sucrées, je vais poursuivre avec les fraises d'automne. Le temps des fraises d'automne, oui, on y songe, la saison des fraises d'ici se poursuit et les fraises sont bonnes désormais jusqu'en octobre. Donc, il y en a plein les marchés, courez-y. Si le mois de juin rime souvent avec autocueillette, plusieurs producteurs cultivent des variétés de fraises bien sucrées qui se récoltent en septembre et en octobre. C'est notamment le cas de la Seascape, une fraise juteuse d'un beau rouge vif, et de l'Aroma, une variété plus ferme, d'un rouge foncé. C'est aussi le moment d'aller chercher vos fraises pour faire vos confitures d'hiver. Les fraises du Québec affichent une excellente valeur nutritive, sont riches en vitamine C et contiennent plusieurs antioxydants. En collation, en dessert, dans les salades, elles se prêtent à plusieurs utilisations. Et pour ma part, j'ajouterais pourquoi pas y mettre du miel ou du sirop d'érable et en faire un super dessert. Alors,
du miel
dans vos vies, allons-y. Hein. Alors, je vais conclure. On va se dire au revoir. Merci à Mathieu Tessier. Merci à Dominique Meillet-Carpe. Vous pouvez nous retrouver à 13h-21h en rediffusion aujourd'hui même et tous les jours pour le kiosque magazine sur canalm.vusevoix.com, www.vusevoix.com. Alors à bientôt, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne semaine.